Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, la CPI condamne le chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à 30 ans de prison. Plus de 300 000 personnes déplacées par les inondations en Somalie. Le secrétaire général de l'ONU appelle au dialogue face aux manifestations en Irak. Et en dossier, nous revenons sur l'action de Policité à Vaulx-en-Velin en France pour améliorer les rapports entre les forces de l'ordre et la population. La Cour pénale internationale a condamné à l'unanimité ce jeudi l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à une peine totale de 30 ans d'emprisonnement. Surnommé Terminator, M. Ntaganda avait été jugé coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri, en République démocratique du Congo, en 2002 et 2003, y compris des crimes de meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans. Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI, revient sur la sentence.
La défense et le procureur peuvent faire appel de la peine prononcée sous 30 jours au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime. De plus, au terme de l'article 110, paragraphe 3 du statut, lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Le temps passé en détention à la CPI du 22 mars 2013 au 7 novembre 2019 sera déduit de la peine. La Chambre a également conclu que les crimes pour lesquels M. Ntaganda avait été condamné, malgré leur gravité et son degré de culpabilité, ne justifiaient toutefois pas une peine d'emprisonnement à perpétuité. Lorsqu'une peine d'emprisonnement à perpétuité n'est pas imposée, le statut de Rome limite la durée totale de l'emprisonnement à 30 ans au plus. La Chambre a donc estimé qu'elle n'avait plus de pouvoir discrétionnaire et elle a condamné M. Bosco Ntaganda à un total de 30 ans d'emprisonnement.
En Somalie, les fortes pluies et les inondations ont entraîné le déplacement de plus de 300 000 personnes depuis septembre. Selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les effets de ces catastrophes sur les populations locales sont considérables. L'agence a programmé une dizaine de vols pour transporter par avion 60 tonnes de kits de secours humanitaire d'urgence, y compris des jerrycans, du savon, des couvertures, des batteries de cuisine et des bâches en plastique. Andrei Majcic, porte-parole du HCR à Genève.
L'impact des inondations a été dévastateur pour les communautés locales en Somalie, avec plus de 260 000 personnes déplacées au cours des deux dernières semaines. La majorité d'entre elles, soit quelque 230 000 personnes, ont trouvé refuge dans la ville de Beledweyne et ont besoin urgent d'aide humanitaire. En outre, les rapports de nos partenaires humanitaires indiquent que des villages à la périphérie de Beledweyne ont été submergés et des centaines de familles piégées dans leurs maisons. La Somalie a fait des progrès dans la gestion des conflits armés et de la sécheresse, mais elle reste fragile avec environ 2,6 millions de déplacés internes. Ces inondations mettent en lumière la vulnérabilité croissante de la Somalie face aux effets du changement climatique. En juillet dernier, les organismes humanitaires ont lancé un plan d'intervention en cas de sécheresse à la suite de pluies inférieures à la moyenne, ce qui a provoqué une grave sécheresse dans le pays.
Le mouvement de contestation populaire en Irak ne semble pas faiblir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit gravement préoccupé par le nombre croissant de morts et de blessés au cours des manifestations dans ce pays. Il s'est également déclaré inquiet des informations faisant état de l'utilisation de balles réelles contre des manifestants. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Antonio Guterres exhorte tous les acteurs à s'abstenir de toute violence et à enquêter sérieusement sur tous les actes de violence en Irak, a déclaré son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée hier soir. Le secrétaire général de l'ONU renouvelle son appel en faveur d'un dialogue constructif entre le gouvernement et les manifestants. La semaine dernière, la représentante spéciale de l'ONU pour l'Irak, Janine Ennis Plaschert, s'était entretenue avec des manifestants, faisant valoir que la démocratie donnait aux Irakiens le droit de faire entendre leur voix et de demander des comptes à leurs dirigeants, elle avait noté que l'Irak était aujourd'hui à la croisée des chemins. Janine Ennis Plaschert avait plaidé pour un dialogue national public réunissant les Irakiens pour un pays inclusif, stable et prospère. Le mois dernier, Antonio Guterres avait exprimé son inquiétude concernant les situations de troubles dans de nombreux pays à travers le monde, dont l'Irak. Il avait noté que même si chaque situation était unique, ces manifestations avaient pour point commun la colère des populations au sujet des inégalités et leur méfiance à l'égard des dirigeants politiques. Le secrétaire général avait exhorté les dirigeants du monde entier à écouter les problèmes des gens et à construire une mondialisation juste.
L'UNESCO a récemment réuni à Paris 24 municipalités de toutes les régions du monde pour partager leurs expériences et solutions qui pourraient permettre d'offrir une vie meilleure aux générations futures. L'un des participants, Abdallah Slimani, un leader du collectif Policité, est venu expliquer que la cohésion sociale est possible. Sa ville de Vaulx-en-Velin, en France, connaît depuis 20 ans des tensions entre la police et la population. Depuis que son collectif organise des débats et rencontres, les rapports se transforment. On l'écoute.
L'origine du projet, faut revenir au contexte local, puisque Vaulx-en-Velin est une ville connue en France pour ses émeutes qu'elle a connues en 90 après qu'un jeune motard ait été percuté par la police. Et du coup, depuis 1990, cette image de Vaulx-en-Velin d'une ville dégradée, d'une ville de banlieue, d'une ville où il y a une délinquance qui règne, elle est restée. Et à travers cette image de la ville-là, on a constaté des relations tendues avec la police. D'où est venue l'initiative du projet Policité, en essayant de redonner du dialogue entre les jeunes et la police, et même les moins jeunes et la police, en redonnant du dialogue entre les citoyens et les policiers.
Alors vous parlez de redonner du dialogue, c'est sous quel format exactement? Quelles sont les actions concrètes de Policité?
Alors Policité, c'est une recherche-action. Avec une dizaine de jeunes, on a fait un travail de recherche. On s'est informé sur l'institution de la police nationale, de la gendarmerie nationale et également aussi les défenseurs des droits. Et puis, au fur et à mesure, nous avons rencontré des gendarmes qui nous ont expliqué et puis on a été formés par des chercheurs à l'entretien sociologique, puisque nous avons fait des entretiens avec des citoyens vaudais, des habitants de la ville de Vaulx-en-Velin. Et à travers cette recherche-là, on a vu que les problèmes étaient récurrents, les problèmes avec la police. Du coup, on continue notre recherche en faisant des séjours d'études, un à Londres et un à Montréal. On a découvert une toute autre manière de fonctionnement, un tout autre relationnel entre la police et les habitants. Et du coup, on a essayé d'importer cela en France. Et là, les actions commencent.
Vous parlez d'un tout autre relationnel. Ça veut dire quoi exactement? En quoi est-ce que les rapports police-communauté ont été différents à Londres ou à Montréal?
Moi, ce que je retiens de ces séjours d'études-là, et le fait qui m'a marqué, c'est la présence d'agents de police au sein des commissariats à Montréal, appelés les agents socio-communautaires, qui ont pour seule mission et unique mission d'améliorer les relations entre la police et la population. Ils sont plusieurs au sein des commissariats. Et en fait, leur seule mission, c'est d'entretenir le dialogue entre les acteurs de la ville, c'est-à-dire commerçants, habitants, citoyens, jeunes, élèves, écoles, et le commissariat. Et ça, c'est un des faits qui m'a le plus marqué. Et du coup, pourquoi pas le faire importer en France? Après, il y a plein d'autres de faits marquants.
Vous dites de l'importer en France, ça se traduit comment dans les faits aujourd'hui? Est-ce que vous menez des actions conjointes entre les jeunes et la police dans votre ville?
Oui, bien sûr. Dans le système Importer en France, on a organisé une conférence citoyenne de consensus. C'est d'ailleurs une des premières faites en France où on a réuni un panel professionnel où on retrouvait des gendarmes, des gradés du ministère, des policiers, des chercheurs, experts dans ce domaine-là. Et puis, on a également invité des citoyens et également des commissaires, un lieutenant-colonel du SPVM, du service de police de la ville de Montréal. Et puis, on a réfléchi à plusieurs propositions concrètes afin d'améliorer les relations entre la police et la population en France. On a voté 12 propositions qu'on a transmises au ministère de l'Intérieur et qui, normalement, l'a pris en compte selon son retour. Et indépendamment d'autres institutions, on essaye nous-mêmes de mettre en place au moins une de ces propositions. L'organisation de soirées-débats entre des jeunes vaudais et des policiers travaillant sur la ville de Vaulx-en-Velin. Et si j'ai encore à expliquer d'autres projets, par exemple, nous, le projet Policité, intervenons dans les collèges pour changer les préjugés dès le plus jeune âge, pour que ces jeunes-là n'aient plus cette mauvaise image de la police, qui ne pensent plus que la police est là uniquement pour faire la répression, mais qu'elle est là aussi pour les protéger.
Est-ce que vous avez remarqué que les tensions ont diminué depuis que vous avez commencé ces actions? Est-ce que ces projets se sont avérés? Il y a une amélioration?
Bien sûr que oui. Juste sur les jeunes, les relations entre la police et la population, leur préjugé a changé, puisque les jeunes pensaient que la police était là pour arrêter, pour déranger les jeunes, alors que la police, au contraire, eux pensaient que les jeunes, c'est des délinquants, ils foutent rien de leur journée, ils sont dehors, ils énervent tout le monde, ils nous jettent des pierres, alors que chez les jeunes, nous, on se défend parce que, ils nous attaquent, dès qu'ils nous arrêtent, ils nous tapent, c'est plusieurs préjugés. Les policiers ont compris que tous les jeunes n'étaient pas des délinquants et qu'il fallait faire la différence et que il y a un comportement à avoir auprès de ces jeunes-là et vice-versa, les jeunes doivent avoir un comportement adéquat face à un contrôle, face à des policiers.
Voilà la fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.